multiples latiennes déclenchent insurrection.
À présent, c'est au parti des oubliés de s'exprimer.
Face aux flics militaires, ils parcourent la rue armée.
Jeunes de banlieue révoltés, gauchistes et libertaires.
SDF sans papiers, chômeurs qui perdent ton pierre.
Certains d'entre eux ne consomment aucun idéal, mais tous sont fermement décidés à y faire très mal.
Et même si encore la majorité de la population
reste alignée, passive,
acceptant sa condition, elle ne peut ne pas s'entendre hurler sur le parvis.
Ceux qui choisissent de mourir avec une espérance de vie.
Le dialogue ou la bataille? Un mouvement révolutionnaire, le dialogue ou la bataille? Fin du dialogue. Le dialogue ou la bataille? La contestation par la violence. Le dialogue ou la bataille? Fin du dialogue. Chacun a compris, ce sera la bataille.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu et sans maître de la Fédération anarchiste, c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour,
du groupe Libertaire d'Ivry et de l'émission Lundi Matin sur Radio Libertaire, le lundi matin. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un psychothérapeute connu et qui est un peu, disons, dans la ligne de ce qu'on avait un peu cerné, quoi, autour du reichisme. Mmh. Enfin, c'est-à-dire que des thérapies reichiennes, on fait un peu, on semait un peu des graines, quoi, pour et donc ce psychothérapeute, c'est Arthur Janov.
Ouais, qui est donc l'inventeur, entre guillemets, de la thérapie primale qui, encore aujourd'hui, est très prisée. On va essayer de comprendre pourquoi, parce que ça peut paraître complètement hallucinant comme truc, mais déjà, d'entrée de jeu, bon, pour la comparaison avec Reich, Reich est un charlot. Enfin, je pense qu'on l'a un peu démontré dans les émissions qu'on lui a consacrées. Mais en même temps, il n'a pas l'air du mauvais zigue. Même ce que je lui reprocherais le plus, à savoir prétendre pouvoir guérir les cancers, ce qui est quand même assez dangereux. Après, je ne l'ai pas connu, hein. Mais quand tu le vois comme ça, il donne l'impression d'être plutôt un peu de gauche. Enfin, tu vois, pas. Et puis, bon, ayant plein de bonnes intentions, il veut faire pleuvoir sur le désert avec un système de tuyaux, des trucs comme ça. Bon, tu te dis, bon, pourquoi pas, il veut que les gens s'éclatent au plumard, ça part d'un bon sentiment, je suppose. Donc, tu vois, il y a un côté comme ça, tu vois. Mais en même temps, il faut quand même aussi que je reprécise quelque chose qu'on est obligé de repréciser, puisque c'est pas évident pour tout le monde, en tout cas pour moi, et puis même c'est ce que j'ai cru comprendre de ton optique, en critiquant la psychiatrie, moi je critique effectivement des, non pas je, le fait de dire, enfin, que les gens ne souffriraient pas et qu'ils n'auraient pas besoin d'aide, mais que cette aide passerait par des gens qui prétendent avoir une science qui n'en est pas une. C'est tout. C'est la médecine. Il y a des bons et des mauvais médecins, mais enfin, la médecine est une science. C'est pas tout le monde qui peut opérer une appendicite, guérir une infection, même pour les infirmières. Tu sais faire une piqûre ou tu sais pas. Enfin, c'est une technique. C'est quelque chose que tout le monde peut pas faire. En revanche, écouter quelqu'un avec bienveillance, qui fait forcément du bien, c'est être, avoir une bonne capacité d'écoute. Il y a des psys qui en sont absolument incapables et des gens qui ont pas lu une ligne d'aucun psy, qui ont pas fait un mois d'études de psy, qui ont zéro diplôme et qui ont une capacité d'empathie et d'écoute. Et ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un. Après, sur l'idée de guérison, il faut déjà aussi s'entendre sur l'idée de maladie. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va un peu se fixer sur Janoff, parce que dans son livre Le cri primal, qui, dès sa sortie, je crois, il s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. C'est vous dire, hein, c'est pas un marginal. Hein. Il a souvent été considéré comme quelqu'un qui était très new age et limite gourou, et la démarche limite sectaire, pour pas dire même au-delà de la limite, mais en tout cas, ça plaît énormément. Et on pourra se demander pourquoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui plaît tant dans un truc qui est pas forcément si original, ni surtout si convaincant, on va dire. Hein. Mais donc, c'est un passage, un chapitre du livre qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est être normal ?» C'est toujours intéressant à savoir. Tu regardes si tu coches des cases. Moi, j'en coche pas tellement, mais bon, c'est pas toi peut-être. Mais c'est là que tu vois que effectivement, le truc de Janoff qui a tellement plu, c'est le côté un peu Reich aussi, à ce côté couteau suisse qui peut tout faire. Sauf que Reich prétendait guérir aussi les maux de la société, alors que Janoff, il prétend simplement, comme d'autres, un psy d'ailleurs, que ça n'existe pas, tout ça c'est dans ta tête. Bon, c'est vrai qu'à un moment il dit oui, des fois tu décris la société, il y a des problèmes, mais il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon, quoi, grosso modo. Il n'imagine pas, comme d'autres psys, qu'en plus, je trouve beaucoup plus intelligent, on va dire, parce que je pense quand même, vous allez voir les imbécilités qu'il est capable de débiter, le gars. Par exemple, Vaslavik, qui dit des trucs super intéressants, comme il sort un peu de la cuisse à Jupiter, il est incapable d'imaginer, comme beaucoup d'autres psys, que tu puisses avoir des problèmes extérieurs à ton psychisme, que tu puisses, je sais pas, il y a des incendies en Gironde, ta maison brûle et tout, tu vas pas en faire une tartine, enfin tu vois, et même d'une façon générale, t'es né dans un pays ou dans un milieu très défavorisé, il en parle même pas, tout ça c'est dans la tête. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment des projections que tu fais. Si tu fais sa thérapie, tout ira bien. Dans le cas de Reich, c'est différent. C'est parce que il s'est rendu compte à un moment donné, en rencontrant une ouvrière qui était mal logée, qu'en effet, il y avait des gens qui avaient des problèmes d'ordre social, on va dire. Et donc, il savait pas trop comment faire, mais enfin, il prétendait vouloir en tenir compte. Il a même plus ou moins prétendu pouvoir venir à bout grâce à des thérapies du fascisme, ce qui est, enfin, je vois pas comment, mais enfin, il avait cette prétention-là, au moins, c'est qu'il voyait un problème. Alors que des gens comme Janoff, il n'y a pas que lui, hein, pas du tout. Ça n'existe pas. Il y fait que très vaguement allusion. Et quand tu t'en soucies, c'est que t'as quand même un peu les fils qui se touchent, tu vois. Et donc, il faudrait vite faire sa super thérapie primale. Donc, en quoi consiste la thérapie primale? Donc, c'est un mec des années. C'était dans les années 70. Hein.
Le cri primal est sorti en 70.
Voilà. Donc c'était des thérapies, et c'est une thérapie qui est censée être assez violente. Donc par exemple, Laurent me disait, pourquoi est-ce que les gens vont accepter? Enfin, puis il dit, bon, c'est quand même, faut dénoncer sa violence. Mais les gens, ils vont volontairement et en connaissance de cause, parce que faut souffrir pour être normal. Hein, puis pour être beau et tout, grâce à lui, puisque vraiment, vous allez voir dans tout ce qu'il prétend pouvoir apporter avec sa super thérapie, tu vas même être beau maintenant, tu vois. pourquoi pas beau, bronzé.
Alors on commence un peu par sa biographie sur Wikipédia ou...
Oui, tu peux peut-être un petit peu parler de sa biographie, mais je crois que ça a peut-être été fait par une groupie. Enfin, ça m'a semblé pas très critique, alors que j'ai vu des textes qui étaient critiques, et je le précise, par d'autres psys qui n'aimaient pas la concurrence. Rends-toi compte tout ce qu'il peut promettre. Avec une thérapie courte, chère, parce que ça coûte cher. Apparemment, ça coûtait pour l'époque entre 50 et 60 000 francs, ce qui était énorme.
Oui, oui, ben on en reparlera aussi tout à l'heure. Alors, juste la biographie, c'est très court sur l'article. Arthur Janoff, docteur en psychologie, est le fondateur de l'Institut Primal de Los Angeles, Janoff Primal Center de Venice. Il est membre de l'Association américaine de psychologie et conseiller pour le Narcotic Outpatient Program de l'État de Californie. Il a été pendant plus de 15 ans psychiatre conventionnel avant de créer sa propre thérapie, la thérapie primale. Arthur Janoff est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, notamment Le cri primal en 1970 et Prisonnier de la souffrance 1980, prisonnier au pluriel. Ses publications ont été traduites en plus de 15 langues. Il anime le Janoff Primal Center, un centre de recherche et de formation en Californie, près de Los Angeles, avec son épouse France Janoff, également thérapeute primale.
Je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, mais je les plains de tout mon cœur. Je pense que peut-être tu pourrais passer un peu à une lecture sur le... Je pensais, pour situer un peu le personnage, avant d'entamer le truc, ce qui est spécifiquement le chapitre « Qu'est-ce que c'est être normal ?» Hein, ce que tout le monde se demande tout le temps, tu vois. Eh bien, il y a un passage sur Edith, tout ce qu'il pense de l'homosexualité. Vous allez voir que c'est pas mal non plus dans être normal. C'est quoi être une femme normale et ou un homme normal. Enfin, et tu vas voir, c'est c'est pas piqué des hannetons. Dans le genre... voilà, l'homosexualité, tu vois.
Homosexualité. L'acte homosexuel n'est pas un acte sexuel. Ah oui, alors je ne sais pas si mon micro marche bien. Je vais le remonter un petit peu. J'arrive tout de suite.
D'accord. Voilà.
Organisation. Technique.
C'est vrai que... Je pense que ça se situe... Enfin, l'opinion comme ça de quelqu'un sur l'homosexualité situe quand même un petit peu les opinions en général... d'un personnage sur effectivement comment tu dois être, comment tu dois pas être, etc. Je pense que c'est assez significatif.
Je commence. L'acte homosexuel n'est pas un acte sexuel, il se fonde sur le reniement de la sexualité réelle et constitue le déjouement symbolique d'un besoin d'amour par le moyen du sexe. Une personne vraiment sexuelle est hétérosexuelle. L'homosexuel érotise d'habitude son besoin, de sorte qu'il paraît en général très porté sur la sexualité. Privé de sa, entre guillemets, dose sexuelle de son partenaire, il se comporte comme un drogué en période de manque. Sans son partenaire, il est plongé dans la souffrance qui est toujours présente, mais qui est drainée par l'activité sexuelle. Le but recherché n'est pas cependant pas le sexe, c'est l'amour. En règle générale, l'homosexuel est le plus tendu de tous les névrosés, car c'est lui qui a été obligé de se séparer le plus profondément de son moi réel.
Il n'y a pas de quoi rien.
La tension peut le pousser à boire, à se droguer, ou à une activité sexuelle compulsive, sans que ses exutoires lui suffisent. Parmi les homosexuels que j'ai pu voir, beaucoup se plaignent de troubles psychosomatiques. La violence que l'on observe en eux résulte de leur reniement d'eux-mêmes. Le sujet qui ne peut être ce qu'il est vit dans un état de colère. Je qualifierais d'homosexualité tout acte qui est vécu comme s'il était pratiqué par deux personnes du même sexe. Si un homme fait l'amour avec une femme tout en étant complètement absorbé par des fantasmes concernant des hommes, il vit, d'après moi, une expérience homosexuelle. Ce n'est pas le comportement extérieur qui compte, mais l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Lorsque le sujet fait réellement l'amour avec un partenaire du même sexe, cela signifie qu'il s'est engagé plus avant dans le comportement symbolique. Il n'y a pas de clivage en lui, il n'y a pas de fragment de lui-même qui le force à garder un comportement hétérosexuel. Il a renoncé à lutter et il est devenu plus complètement ce qu'il n'est pas.
Alors que moi j'aurais quand même tendance, j'ai connu un homme comme ça qui reniait justement et je savais même pas quoi faire. Je me disais, ce que je lui dis, arrête un peu. Mais je veux dire, un mec avec qui tu couches et qui ne peut que regarder la photo de Johnny Hallyday sur son mur, qui dit ouais, je suis allée par pure curiosité, je suis allée voir des travestis, etc. Enfin, et puis même des, mais c'est juste de curiosité. Je suis pas homosexuel du tout, tu penses bien. Bah, c'est le contraire de ce que dit Janoff. Je suis tentée de lui dire, affronte un peu ce que t'es en réalité. T'es pas du tout intéressé par les femmes et assume-le.
Il
quoi,
ne
tu
devient
vois.
Pas ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il est justement.
Justement. Ouais. Mais en effet, on voit bien à quel point les psys, qui donc sont censés combattre une souffrance, même quand elle est bien réelle, déjà savoir pourquoi il souffrait, ce type. Mais il souffrait parce qu'il pouvait pas, justement, au contraire, assumer ce qu'il était. Mais le fait est que les psys se voient vraiment comme des modèles, souvent. C'est-à-dire que, bah oui, pour avoir la prétention de soigner les souffrances des autres, leurs déviances diverses et variées, il faut se voir comme un modèle. Et je sais bien que les cordonniers sont des fois les plus mal chaussés, mais enfin, si c'est évident que tu vas pas bien, que t'es par exemple bourré de tics ou que tu te drogues devant tes patients, ça va faire un peu bizarre. Donc il y a cette idée de savoir ce qui est normal. Je pense que c'est un peu inévitable pour quelqu'un qui se prétend être un professionnel de l'écoute et de la guérison des souffrances, tu vois. Mais la vérité, on voit bien avec Janoff, parce que c'est un peu extrême, c'est qu'il est absolument pas neutre ni objectif. Tu vois, c'est que et que le fait d'avoir des préjugés comme ça, ça ne peut qu'avoir des incidences. J'ai pas retrouvé le passage, mais il y a un passage où il explique qu'il insulte un homosexuel en disant ouais, t'es arrivé en retard, c'est une heure de PD, ça. C'est parce que qu'est-ce qu'il y a, tu veux sucer ton père, des trucs comme ça, tu sais, pour le choquer. Oui, parce que c'est beaucoup basé
là-dessus. Thérapie de choc, en fait.
Oui, voilà, c'est une thérapie de choc et l'objectif est de faire craquer les gens, et quand ils craquent, ils se mettent à crier et donc à régresser jusqu'à la toute petite enfance, je veux dire les premiers mois de la vie, et donc ils peuvent redémarrer une vraie personnalité réelle et tout, parce qu'il a accès à la bouche, voilà, quoi, tu vois.
C'est le principe.
À partir de là, oui, c'est le principe.
Le cri primal, donc il y a un sacré pavé quand même.
Oui.
Et donc, dont je continue à lire
un peu sur l'homosexualité,
un
oui.
Un extrait. Il y a des hommes et des femmes qui font des mariages homosexuels sans le reconnaître. Un homme efféminé choisit une femme très masculine.
Il n'a pas honte, hein, quand même. Sur les clichés, il y va fort. Hein,
il faut dire que le DSM existait déjà à l'époque.
Il date de quand? Enfin, explique, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est.
Le manuel diagnostique des maladies mentales, rédigé par l'Association américaine de psychiatrie, je crois, c'est ça.
Qui existe encore aujourd'hui?
Oui, qui existe encore aujourd'hui. On en est au DSM-5. Ouais. Et c'était bon, alors ça a commencé peut-être à la fin des années 50, le DSM, et puis dans les années en 70, il y avait encore l'homosexualité comme maladie dans ce manuel.
Ben, c'est plus le cas, mais bon.
C'est le suivant où il a disparu, où ce symptôme a disparu, puisqu'il y avait une levée de bouclier des mouvements. LGBT, enfin on n'appelait pas ça comme ça à l'époque.
On a quand même changé d'époque, c'est vrai. Mais pour moi, même si on dit « Ah non, mais c'était parce que c'était l'époque », ça démontre quand même une chose, c'est le peu d'objectivité que peuvent avoir les soi-disant médecins de l'âme et qui vont soigner les souffrances des gens. C'est que c'est quand même un peu, c'est totalement, je veux dire, ça dépend complètement de leur personnalité, plus ou moins cherche un mot réac, voire facho, quoi.
Ah,
tu
oui,
vois.
Oui, Oui, que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, en comparant avec Reich, Janov me semble assez apolitique, en fait. Disons que, c'est-à-dire, enfin, ce qui signifie qu'il n'est pas engagé vers le marxisme.
Oui, tu as raison de le souligner. Et puis, mais comment dire, c'est plutôt que, comme on le dit souvent, d'ailleurs, totalement apolitique, ça n'existe pas. Avoir cette opinion sur l'idée de.
C'est pas neutre.
Voilà, mais par exemple, c'est pas la première fois que je vois des gens prétendre. Il y a même un livre de Toby Nathan qui voit le militantisme comme un. Puisqu'on parlait de politique et psychanalyse, qui voit le militantisme comme il n'y a pas de quoi, chier une pendule avec comment est la société, et ben il se demande comment ça se fait que tu t'intéresses à ça, et c'est probablement que t'es et tout, tu vois. Et en effet, Reich était au moins pas sur cette idée-là, et pourtant dans Sexpol, un journal qui se veut reichien, il y a des critiques des militants qui vont dans le sens que c'est un symptôme. Et j'ai entendu souvent des par exemple, je me rappelle, c'était sur Ici et Maintenant, une psy, un mec appelle en disant, vous dites que tout dépend que du psychisme, mais moi, j'ai vraiment des problèmes au boulot, etc. J'ai pas, enfin, je viens d'un, enfin, on va dire, tu sais, un peu comme les Lascars, je viens d'un milieu défavorisé, je suis à l'usine, mon patron est une enflure. Non, c'est, la psy répond, c'est une projection que vous faites sur, vous projetez votre père sur votre patron, mais en fait, il est charmant, etc. Donc, si tu veux, ils sont pas même lui est pas politique dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vit pas mal dans, de classe favorisée et qui du coup n'imagine pas du tout ce que ça peut être que d'être victime politiquement, socialement, tu vois. Enfin, pour lui ça n'existe pas, donc tout peut être résolu par sa thérapie. Tu peux pas tout peut être résolu en général par une thérapie. C'est il n'y a pas de problème extérieur, il n'y a que des problèmes intérieurs,
voilà. individuels,
et il a une idée déjà précise de ce que tu devrais guérir, comme par exemple en effet l'homosexualité. En effet.
Oui, alors un homme efféminé choisit une femme très masculine, il préférera, comme me le disait un patient, être dessous quand il fait l'amour, expliquant qu'il est mieux comme ça, sans se rendre compte le moins du monde qu'en vérité, il fait l'amour avec un homme. Il y a un système idéal de radar qui fait que ces gens se rencontrent. L'homme qui éprouve le besoin inconscient d'être aimé par son père et qui n'a pas le courage d'admettre ses pulsions homosexuelles sera attiré par une femme virile. Il s'attachera au côté masculin de son caractère, de sorte que c'est elle qui sera le bricoleur de la maison, elle qui gérera le budget familial, conduira la voiture, etc. L'important, c'est qu'un névrosé peut faire de n'importe qui ce qu'il veut. Ah, quel pouvoir C'est ainsi qu'un homme peut, dans son esprit, transformer une femme en homme, de la même manière qu'il fait d'un policier son père ou d'une institutrice sa mère. Le besoin l'emporte sur tout.
Ah bah au moins, ça prouve que t'es pas si névrosé que ça, parce que je parie que tu vois pas dans un policier ton père.
Je ne sais pas, peut-être inconsciemment.
Ah, peut-être inconsciemment.
Voilà, donc c'est l'extrait que...
Donc, si on en vient, donc qu'est-ce que c'est qu'être normal? Alors, je tiens à préciser qu'il commence par un peu adoucir le propos en disant « Non, mais j'ai l'impression que dans un coin, il sait qu'il risque d'avoir l'air d'un gourou, ce dont on l'a des fois accusé. Hein. » Et donc, que c'est pas qu'il veut que les gens soient tous pareils, etc., qu'il voudrait que je ne vois qu'une seule tête. Mais la vérité, c'est que c'est ça, quand même. Tu veux passer une musique ou quelque chose, c'est ça?
Allez, je sais pas, pourquoi pas.
Et après, après tu pourras lire tout le monde a envie de savoir comment on fait pour être normal.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que tu vas nous passer?
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Allez, toi.
Alors bonjour, Mariama, qui vient dans ton studio pour faire sans doute une émission au studio B. Et nous allons passer Nini Raviolette, Suis-je normal ?
Thank you. Suis-je normal? Suis-je? Suis-je normal? D'avoir peur. D'avoir mal au cœur. Suis-je? Suis-je normal? Suis-je? Suis-je normal? Quand tu me prends, quand tu me prends dans tes bras, je ne pense plus qu'à ça. Quand tu me prends, quand tu me prends la main, je ne pense plus à rien, rien, à rien. Car l'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. Beaucoup mieux qu'une piqûre, l'amour transfigure. Beaucoup mieux qu'une piqûre, l'amour transfigure. Je ne pense plus à rien quand tu me prends la main. Je ne pense plus qu'à ça quand tu me prends dans tes bras. Oh, suis-je normal? Oh, suis-je normal? Suis-je normal?
Bon, donc
on est toujours sur Radio Libertaire et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec Sylvie et Jeanneuf, avec son livre Le cri primal et le chapitre Qu'est-ce que être normal ? Le but de la thérapie primale est de faire du malade une personne réelle. Les êtres normaux sont par définition réels. À la suite de la thérapie primale, les malades le deviennent. Mais il leur reste des cicatrices. Ils ont été maintes fois blessés et nul ne peut effacer leurs souvenirs. On peut tout au plus les désamorcer de sorte qu'ils n'ont plus la force qui a contraint le névrosé à adopter un comportement symbolique. Étant donné les frustrations dont souffre le névrosé, il ne faut pas s'attendre à ce que la thérapie primale fasse de lui un individu complètement satisfait. Névrosé, il luttait pour atteindre cette plénitude future.
Je tiens donc encore une fois à souligner qu'il dit ça au début et après, c'est évident qu'il dit exactement le contraire. C'est-à-dire que si il va devenir parfait avec sa thérapie, ah oui, il va devenir parfait. Il aura plus jamais de, il aura toujours le comportement approprié. Il sera ni trop ni trop peu dans aucun domaine. Il aura toujours le, enfin, il va être parfait en réalité. Donc c'est bizarre de commencer par dire, oh bah bien sûr la perfection n'existe pas. Et j'ai l'impression que c'était un peu pour désamorcer le fait des critiques qui diraient, dis donc, ça fait un peu gourou ton affaire. L'idée de tu vas transformer les gens, enfin, il y a un côté meilleur des mondes un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il prétend que non, mais c'est pas vraiment la perfection. Mais je tiens encore une fois à dire que dans tout le reste du chapitre et même du bouquin, c'est exactement le contraire qu'il développe. Hein. Si tu vas devenir parfait, et il sait exactement comment tu vas être. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas 36 possibilités pour être normal. Il y en a plein pour être névrosé, mais pour être normal, il n'y en a qu'une. Il faut suivre son panache, hein, et c'est tout. Voilà, continue.
Névrosé, il luttait pour atteindre cette plénitude future. La thérapie le rend apte à satisfaire les besoins qu'il ressent dans le présent. Par individu normal, j'entends un individu exempt de toute défense, de toute tension et de toute lutte intérieure. Ma conception de ce qui est normal n'a rien à voir avec les normes statistiques, les moyennes, le degré d'adaptation sociale, la conformité ou la non-conformité. Pour l'individu lui-même, il y a des comportements d'une variété aussi infinie qu'il y a d'hommes sur la Terre. L'individu normal est lui-même. Le rôle de la thérapie primale est de permettre au malade non de devenir quelqu'un, mais de devenir lui-même.
Sauf que voilà, il sait bien comment faut faire pour devenir soi-même, tu vois. Il a déjà, soi-disant, c'est toi qui vas choisir, mais en fait, pas du tout, tu vois. Il sait comment il faut être. C'est comme dans la chanson, ça, c'est vraiment toi. Tu sais, il y a quelqu'un qui sait bien qui tu es, mieux que toi, tu vois. Enfin bref.
J'exposerai ma conception de l'état normal par opposition à l'état de névrose. Puis je tracerai un portrait du malade après le traitement. Alors on va pas vous lire toute la démonstration. Hein. Ses sentiments, ses activités et le type de relation qu'il noue. L'individu normal est détendu parce qu'il est satisfait. Le névrosé, dont les besoins ne sont pas satisfaits, doit chercher des raisons apparentes à son insatisfaction. Cela l'empêche de voir les raisons réelles, d'en voir les raisons réelles. Ainsi, il rêve de changer de métier, de passer de nouveaux examens, de déménager ou de changer de maîtresse. En se concentrant sur les côtés désagréables de son travail ou sur sa mésentente avec sa femme, il espère éliminer son malaise fondamental.
Bah, tu vois, c'est typiquement ce genre d'exemple qu'il donne. C'est typiquement, je veux dire, une interprétation psychanalytique abusive. Tu peux avoir des bonnes raisons de vouloir quitter ta femme et d'être amoureux d'une autre, tu vois, et même de changer de... Pourquoi pas, d'ailleurs, de pas rester avec la même femme tout le temps. Je sais pas pourquoi. Et ton métier, tu peux avoir des très bonnes raisons de vouloir en changer, voire le quitter, tout court. Mais ça, c'est pas... Pour lui, c'est pas imaginable, puisque, déjà, enfin, quand tu vois quelqu'un d'aussi prétentieux, sa thérapie, c'est vraiment le truc, tu sais, qui guérit tout. Tu peux pas avoir une fois que tu as fait sa thérapie, c'est impossible, tu peux être que satisfait tout le temps, quoi qu'il en prétende. Tu peux être que content tout le temps. Donc, il peut pas, si jamais tu reconnais que tu peux être malheureux d'avoir pris, mettons, un tsunami sur la gueule, ou même simplement d'être d'une origine sociale qui te permet pas de t'en sortir correctement dans cette société, eh ben, c'est pas imaginable. Ça voudrait dire que sa thérapie n'est pas universelle et intemporelle. Ça, c'est impossible, il peut pas le supporter comme idée.
Je continue. J'ai le souvenir d'un patient qui était arrivé un jour en maugréant contre le tour que prenaient les événements politiques dans le pays. Il était obsédé par le désir d'émigrer. Ce qu'il disait de l'atmosphère politique correspondait assez bien à la réalité. Toutefois, la découverte des origines réelles de son mécontentement, sans changer son opinion sur la situation politique, mit un terme à son obsession. Son sentiment était... Pour moi, il n'y a pas de vrai foyer. Il n'en avait jamais eu. Mauvais foyer, mauvaise patrie. Il rêvait d'aller ailleurs pour trouver ce foyer.
Donc là aussi, tu vois quand même en filigrane les opinions politiques de Janoff. Bah, rien que le fait d'utiliser le mot patrie, le fait de voir comme un symptôme le fait de pas aimer sa patrie, tu vois, ça peut être que pour des raisons maladives que tu peux vouloir quitter ton pays, par exemple ta patrie, etc. On voit bien quand même en filigrane ce que sont ses opinions et comment il va juger tout ce que tu vas lui dire à l'aune de ses opinions politiques.
Oui, et puis on voit que toutes les, enfin, les choses de la vie quotidienne sont, quand elles deviennent problématiques, deviennent des maladies. Ça permet d'intervenir en tant que psychothérapeute sur ces choses qui ne sont pas pourtant des maladies. Alors, autre extrait. C'est aussi la raison pour laquelle, alors je ne sais pas ce que c'est, de quoi il s'agit, enfin bref, certains individus ne peuvent pas se contenter d'avoir de l'argent sur leur compte en banque. Dès qu'ils sont acquittés d'une dette, ils empruntent à nouveau pour poursuivre la lutte. Ouais, c'est une autre forme de névrose. c'est qu'il leur serait intolérable de se dire « Je suis arrivé, j'ai de l'argent à la banque et je suis toujours malheureux ». La lutte permet d'éluder cette constatation. Parmi les femmes névrosées, rares sont celles qui se lèvent de bonne heure et viennent à bout du travail de ménage. Si elles y parvenaient, elles seraient obligées de faire face au vide de leur existence. Pour l'éviter, elles gardent toujours une ou deux pièces en désordre. C'est une manière de maintenir la lutte. Elles peuvent ainsi envisager avec plaisir le moment où la maison sera installée ou nettoyée, et cela les empêche de se demander « Et maintenant, une fois que toutes les petites besognes sont accomplies ?»
Oui, alors, on pourrait dire « Ouais, c'est pas très clair. On pourrait se dire « Être obsédé du ménage, ce serait une névrose. » Mais moi, pour moi, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que ben tu dois pouvoir faire t'organiser bien. Enfin, si tu te lèves plus tôt, tu auras fini ton ménage à temps. Comme ça, et que quand tu le fais pas, ça prouve que t'es malade. Mais le fait d'aller choisir cet exemple-là pour les femmes est quand même un petit peu spèce, parce que dans ce qu'est l'idéologie d'un psy, par exemple, il y a ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il dit pas. C'est évident que si moi, qui suis la plus mauvaise ménagère du monde, je te dirais. Enfin bon, c'est pas tellement la saleté que le bazar. Hein. Je veux dire, j'aime bien le bazar. Je dis souvent, Laurent, à quoi ça sert que je mette du bordel si c'est pour que tu le ranges aussitôt, hein, c'est pas la peine. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je veux dire, il est évident que moi, j'aurais pas idée de prendre un exemple comme ça sans faire un commentaire sur l'idée que c'est la femme qui doit faire le ménage. Si déjà il le fait pas, c'est le seul truc qui lui paraît embêtant, c'est que des femmes se débrouillent pour ne pas faire leur ménage correctement. Ce qui, effectivement, il y a un certain vide dans ton existence si tout ce qui te tient à cœur, c'est de faire le ménage. Moi, je l'aurais dit un petit peu plus clairement, si tu veux, tu vois. Or, lui, c'est l'idée que tu finisses pas le ménage qui lui paraît problématique.
Oui,
moi, je vais même pas commencer alors comme ça.
Comme on le disait, le psychothérapeute, lui, doit se montrer exemplaire, donc normal. Et on était tout à fait normal, peut-être même encore aujourd'hui, dans une société patriarcale, d'associer la femme au ménage.
Exactement. Un peu plus loin, c'est sur les soldes. Les femmes, quand elles font les soldes, il y a des fois, même le fait de vouloir faire les soldes, de vouloir avoir des choses moins chères, c'est pareil, c'est une maladie, et grâce à la thérapie primale, t'achèteras les choses au juste prix et t'attendras pas à la période des soldes. Voilà. Ce qui profitera globalement à la société de consommation.
Alors, petits autres extraits qui suivent. L'individu normal, alors on est toujours sur la question, mais c'est quoi être normal en fait ? L'individu normal est réel et on le sent dans sa façon de réagir. Au contraire, le névrosé ne connaît pas de juste milieu. Il réagit trop fort ou pas assez. Depuis qu'il a découvert que ses réactions réelles n'étaient pas acceptables, il a été forcé de réagir d'une façon artificielle ou de prétendre qu'il ne réagit pas du tout. Et là, il donne un exemple. On va pas le dire.
Oui, non, mais enfin bon, tu t'imagines un peu ce que ça veut dire, voilà, quoi, tu vois. Et ça aussi, c'est pas une invention à Janoff et tout. L'idée que on avait fait une émission sur Valérie Valère et le pavillon des enfants fous, et c'était une anorexie qui disait que dans cette société en général, il faut être toujours dans un juste milieu, ni trop ni trop peu, et qu'on était toujours, elle sentait que les gens en général, les psys en particulier, étaient toujours à guetter quand tu dépassais d'un côté ou de l'autre, quoi.
Oui, oui.
En dessous ou au-dessus. Et dans la brochure que tu m'as passée sur « Elle est folle », etc., tu sais, elle doit être folle, eh bien, c'est féministe, et donc, elles disent, je trouve ça assez juste, que les femmes, on leur demande d'être féminines, mais sans exagération. Enfin, pareil. Si elles le sont pas assez, c'est pas bien. Si, par exemple, elle se maquille comme un camion volé, et que, vraiment, elle est totalement obnubilée par le shopping, là, c'est trop. Et donc, là, ça va pas. Non plus. Voilà.
L'individu normal n'utilise pas son argent à titre symbolique pour satisfaire des besoins passés. Il a conscience de sa valeur parce qu'il a eu des parents normaux qui l'appréciaient tel qu'il était. Il est tout naturel que l'argent soit la préoccupation essentielle de beaucoup de névrosés. En effet, ils se sentent par définition sans valeur. Ils n'ont jamais été estimés pour ce qu'ils étaient. N'étant pas capables de ressentir leurs besoins réels,
Ils cherchent toujours à avoir plus qu'il ne leur faut.
Ouais, non, je suis inquiète quand j'ai quand je me dis, c'est pas qu'il y a un problème. Non, je pense qu'on aurait un problème de micro. Non, je crois pas. Non, le truc, donc, c'est toujours rigolo de voir les attitudes des, comme ça, les jugements qu'on a sur les gens qui courent après le pognon. Parce que, effectivement, premièrement, il a pas l'air d'envisager qu'il y a des gens qui ont vraiment, mais ce qui s'appelle moins, je sais pas combien, sur leur compte, et que l'argent est un problème. Ça, il l'imagine pas. Donc, il a même pas d'opinion, puisque ça n'existe pas. Mais il faut quand même dire que lui, c'était très très cher, ses thérapies, et qu'il n'était pas question. Contrairement d'ailleurs à Reich, qui je crois avait fait des espèces de dispensaires pour que les gens puissent avoir une bonne vie sexuelle. Pourquoi pas ? Moi je veux bien, c'est pas comme ça que tu vas résoudre... Enfin, à mon avis, c'est pas le seul problème qui se pose aux gens par rapport à la sexualité, mais enfin, ça part d'un bon sentiment, que lui, justement, faisait payer très très cher ses thérapies. Et c'est toujours... rigolo de voir des jugements comme ça sur ceux qui ouais non l'argent ça compte pas. Je t'ai raconté et c'est vrai que ça me fait toujours rire quand j'y pense, parce que j'ai encore vu que ce documentaire est passé il y a pas longtemps, et le commentaire du journaliste dans le magazine de télé montrait qu'il était pas au courant des suites de cette affaire. C'est un documentaire qui s'appelle Être ou avoir. Tu vois, et donc il dit bah pour être, c'est un instituteur de campagne. Il dit pas être normal, c'est être comme ça, mais il dit que c'est comme ça qu'il faut être. Si tu veux, donc ce qu'il faut, c'est être, tu vois, quoi que ça signifie exactement, et non pas avoir, c'est-à-dire s'intéresser à l'argent, justement. Les vraies valeurs, les vrais gens, il y a des gens qui disent, tu vois, toute cette notion de réel, pas réel, les vrais gens, le être vrai, etc., c'est des vraies personnes. Ben moi, je veux dire, quelqu'un qui est vivant, pour moi, est une vraie personne. Après, on peut discuter pour savoir si les gens sont hypocrites ou s'ils se mettent un peu en scène, etc. Jusqu'où tu estimes que c'est pas normal. Mais donc, cet instituteur dit ça, et ce documentaire a été un succès phénoménal. Mais phénoménal, Être ou avoir. Ça a été le plus grand nombre d'entrées de l'année où c'est sorti. Et c'était inattendu, parce que c'est qu'un petit documentaire avec il a qu'une classe unique, et puis tu sais, c'est le bon sens paysan, donc ça plaît, ça, si tu veux. Je me rappelle quand à un moment j'étais pigiste que c'était Guy Sidbon qui était un journaliste et tout, qui avait fait une école de journaliste. Il expliquait qu'il faut dire aux gens l'idée reçue la plus répandue. Bah, comme par exemple un truc comme ça, le truc qui se dit le plus, la langue de bois, la plus répandue. Qui compte, c'est ce qu'on est, c'est pas ce qu'on a. Bon, ben, et puis les gens seront contents. Donc, c'est pour ça que ça avait tellement plu. Le bon sens paysan, tu vois ce que je veux dire. Sauf que quand ça s'est passé, il avait eu des sous pour l'école au moment du documentaire. Mais comme il a cassé la baraque, il y a ceux qui ont fait le film ont engrangé plein de pognon, effectivement. Et là, on a vu sortir de son trou l'instituteur qui voulait sa part du gâteau et tout. Il leur a fait un procès. Il était absolument scandalisé. Il disait, après tout, il se comparait en fait à un acteur. Enfin, on est comme des acteurs, on devrait être payé. Les acteurs, ça avait fait un vrai buzz, parce que les acteurs disaient, attends, acteur, c'est un métier. C'est pas, là, tu te laisses filmer la gueule, c'est pas pareil. Mais en tout cas, il s'est mis dans tous ses états parce qu'il voulait du fric, tu vois. Et c'est toujours assez rigolo, ce genre d'assertion. Tout comme un autre truc comme ça sur le fric qui t'intéresse pas, c'est on avait fait un débat sur la communauté, tu vois, et donc il y a quelqu'un qui dit il y a une communauté, il y a un bouquin dessus, je me rappelle plus le nom de la communauté, qui se propose de se passer de l'argent. C'était pas la BD La Communauté, c'était un autre livre sur une communauté. Donc il dit oui, et eux ils ont comme projet, c'est une super communauté, un vrai modèle, et qui effectivement renie l'argent et qui veut à terme se passer complètement d'argent. Et là, toujours, il y a Christophe qui va chercher le bouquin et puis qui lit ce qu'il y avait marqué derrière. Ils avaient commencé avec un don de la communauté, avec un don de 500 000 euros d'un mécène. Donc on était tous là, oui évidemment, moi aussi je m'en passe d'argent dans ces conditions. Enfin bref, tout ça pour le besoin, l'envie ou même l'envie d'argent comme symptôme, si tu veux. C'est pas mal quand même.
Autre exemple, donc, pour définir la normalité. L'individu normal est stable, Il est content d'être là où il est, d'être là où il est, et n'éprouve pas le besoin d'imaginer que la vie réelle serait ailleurs. Voilà. Plus loin.
Ben c'est pareil, ça c'est valable pour quelqu'un qui a des bonnes raisons d'être satisfait de sa vie. Mais encore une fois, il n'imagine pas qu'il y a des gens qui ont des bonnes raisons de ne pas être satisfaits. Et pas seulement dans notre pays, hein, je veux dire même ici. C'est pas un truc qui lui passe par la tête. Logique, puisque tout n'est que psy.
La personnalité de l'individu normal n'est pas déformée parce qu'il n'essaie pas de dire quoi que ce soit de façon indirecte. Sans de vieux besoins, les gens sont simplement ce qu'ils sont. Je ne saurais expliquer cela autrement qu'en disant que l'individu normal sans façade psychologique vit et laisse vivre. J'ai déjà fait remarquer que le corps fait partie de la personnalité entière, de sorte que le névrosé a souvent l'air névrosé. Il aura les lèvres fines, serrées, qui font barrage à tous les maux inacceptables, des yeux rétrécis, incapables de voir tout ce qui se passe, comme le disait un malade, des lèvres aux commissures tombantes à force de regrets non résolus et inexprimés, ou des mâchoires serrées dans une colère perpétuelle. Par tout son organisme, le névrosé exprime le message de l'inconscient. Chez l'individu normal, qui lui n'a pas de message à transmettre, on peut s'attendre, toutes choses égales d'ailleurs, à trouver un corps bien proportionné. Les transformations physiques que j'ai pu observer chez certains patients à la suite de la thérapie primale me font penser que bien des choses que nous croyons congénitales sont en fait des effets de la névrose.
Bon. Voilà. C'est pas mal.
Il nous en apprend des choses.
Bah, et qui c'est qui aurait pas envie de faire sa thérapie? Hein, c'est vrai, t'imagines tout ce que tu peux... Et tout ça, t'as un super package. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de... C'est pour ça, pour moi, c'est ça, le secret de son succès. C'est que il n'y a pas beaucoup d'autres thérapies qui font autant de promesses. Jusqu'à, tu vas être beau, tu te rends compte, quand même. Oui, c'est incroyable, tu vas être bien tout le temps. Je te dis, t'as bien constaté là. Il prétend au début que t'auras encore des séquelles de, tu sais, un petit peu comme quand les politiciens ils disent non, mais il y a encore des trucs qui vont pas, mais c'est les séquelles du précédent. Mais donc t'auras encore des séquelles, mais en fait il dit tout le contraire après. C'est-à-dire qu'il a pas de gêne à dire un truc et après le contraire. C'est-à-dire que il reste aucune séquelle. T'es là où tu es. T'es exactement. Tu peux avoir zéro problème. Tu vas même ton physique va se normaliser en réalité. C'est et qui sait qui serait pas intéressé par cette promesse. Tu vois, je veux dire, c'est vrai. C'est comme pourquoi est-ce que la religion catholique a tant de succès? Attends, il y en a pas beaucoup qui peuvent s'aligner. Tu fais n'importe quoi pendant ta vie, et puis à la fin, tu dis, tu vas voir un curé, tu dis désolé, et c'est bon, tu vas direct au paradis. C'est quand même pas mal. Qui c'est qui peut se vanter d'avoir la même chose? Et regarde la description du paradis, ça fait quand même assez envie. Et tout ça pour pas grand chose. En plus, si jamais t'en as bavé sur la terre, et bah du coup c'est toi qui seras récompensé, alors que le riche qui a pas demandé forcément être riche pour autant d'ailleurs, et bah lui en revanche il sera puni. Enfin bon, tu te dis quand même c'est pas toutes les autres religions, elles ont pas autant à proposer. Et là honnêtement je trouve que c'est extraordinaire. Tu vois, je veux dire, il y a beaucoup de jalousie entre les psys parce que bah ils sont en concurrence financière, hein. Faut voir les choses un peu en face. Oui. Mais même narcissique. Eh bien déjà ils détestent les comportementalistes parce que les comportementalistes proposent une thérapie rapide et donc moins coûteuse qu'une psychanalyse qui va durer 20 ans et qui va coûter la peau des fesses. Mmh. C'est évident que c'est plus intéressant pour les gens, donc c'est la concurrence quoi, il y a pas de mystère. Ils supportent pas non plus, comme on avait fait une émission sur un article qui disait que de plus en plus avec internet des gens qui avaient des symptômes du genre entendre des voix ou enfin toutes sortes de choses comme ça qui justement occasionnaient de la souffrance essayaient de rencontrer des gens comme eux pour s'entraider. Sur Internet, oui. Sur des forums, sur des, même en mettant des annonces, des choses comme ça. Et ben, les psys, ils étaient au sans coup. Attends, c'est qui va me payer ma maison de campagne? C'est pas marrant. Mais là, tu te dis, bah, oui, puis les comportementalistes, malgré tout, ne proposent généralement que d'enlever un symptôme, du genre t'es agoraphobe, tu oses pas sortir, ou t'as peur, j'en sais rien, des araignées, ou, enfin, tu vois, ou t'as un symptôme en particulier. Il se propose de guérir ce symptôme qui serait particulièrement handicapant, mais seulement un symptôme. Mais là, les autres psys sont pas contents du tout. Tu t'imagines, il va tout guérir, tout, absolument tout. Tu peux pas lutter, quoi. Et effectivement, c'est une thérapie qui est chère d'un seul coup, mais en même temps qui est rapide. Et puis après tout, l'un dans l'autre, il doit pouvoir faire valoir que tout confondu, ça coûte peut-être moins cher qu'une psychanalyse sur 20 ans. Et puis c'est plus rapide. Enfin, si tu dois faire ta publicité, parce que c'est quand même ça, au fond, au bout du compte, quoi.
Ben, il reste que ça... C'est vrai qu'on a tendance à penser que, enfin, à juste titre, que c'est une dérive sectaire aussi. Hein, c'est-à-dire que entre le névrosé et l'individu normal, il y a vraiment quelque chose de très manichéen, quoi. C'est très...
Ouais, puis très justement normatif au sens je ne veux voir qu'une, je veux voir vraiment qu'une seule tête. En réalité, j'ai pas tous les passages, mais à un moment donné, il parle de la musique. De que font les individus normaux? Parce que après, ils ont du mal. Ils sont dans une société où tout le monde a les lèvres serrées, les yeux rétrécis, des tics nerveux, etc. Oui, voilà. C'est pas, ils veulent plus fréquenter des gens comme ça. C'est nocif, c'est délétère de fréquenter des gens comme ça. Donc ils se fréquentent entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont entre eux? Bon, évidemment pas des partouzes, hein, t'as bien compris un peu l'idée générale.
Non, ça c'est pas normal.
Certainement pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y avait un passage où ils se mettent en rond et ils écoutent de la musique classique, pas de la musique de sauvage, etc. Tu vois, mais de la musique classique. Ils parlent très très peu parce qu'ils ont pas besoin de, pour même se faire quelque part. Ils baignent tellement dans l'huile qu'ils ont pas grand chose même à exprimer, à part le bien-être de temps en temps, mais enfin c'est très peu. De toute façon, comme ils sont ni trop ni trop peu, hein. Et puis voilà, je suppose que c'est la musique qui plaît à Janoff lui-même. Et que donc il a quand même quelques mots aussi sur la musique de boum boum, tu sais, la musique de sauvage et tout. J'ai pas besoin de te dire que quand il voit un quepon à crête verte, c'est pas normal qu'il vient à l'esprit comme adjectif. Voilà.
Donc toujours le cri primal de Arthur Janoff. L'individu normal est en bonne santé. Il n'a pas besoin de courir d'un médecin à l'autre pour dire qu'il a mal parce qu'il n'a jamais pu le dire à ses parents. Comme rien ne le pousse à être irréel, comme nul système symbolique ne le contraint à un état d'agitation et de fatigue, il est non seulement plus sain, mais beaucoup plus énergique. Il emploie cette énergie à l'accomplissement des tâches réelles et non à lutter pour obtenir l'impossible. Enfin, l'individu normal sait quand il se sent bien. Un patient m'a dit « Je n'ai même jamais su si je me sentais bien tant j'étais étranger à mes sentiments. Quand on me demandait comment j'allais et que je ne me sentais pas mal, il me fallait en déduire que je devais me sentir bien puisque telle était l'alternative. »
Bah, là aussi, d'ailleurs, dans le livre, il y a une grande partie qui est consacrée à de prétendus témoignages de patients. Ces témoignages n'ont jamais été vérifiés. Je veux dire, on croirait les pubs pour maigrir, où on voit des témoignages de gens qui disent « J'ai perdu 150 kilos grâce à la méthode, donc à 6000 grammes, ou je sais pas quoi, tu vois. » Et donc, t'es censé le croire sur parole. Mais parmi les critiques qui lui ont été faites, il y avait que on n'a pas vraiment démontré que des gens étaient... Elle est mal et elle est mieux après. Oui. Donc, encore une fois, c'est pas qu'on nie la souffrance, mais c'est qu'on nie que quelqu'un qui souffrait a été guéri par lui. Par contre, j'ai une copine qui était... Alors, c'est pas forcément à cause de cette thérapie, c'était pas Janoff lui-même, mais quelqu'un, un psy qui pratiquait les méthodes de Janoff, à savoir les méthodes qui consistent à taper dans les défenses pour te faire craquer et donc revenir à l'état de bébé, quoi, tu vois. Et elle s'est suicidée. Mais le truc, c'est que je dirais pas forcément qu'elle s'est suicidée à cause de cette méthode, parce que c'est possible que de toute façon elle se serait suicidée avec ou sans, tu vois. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été très efficace du point de vue de se sentir mieux après. Mais si tu veux, t'as pas d'obligation de résultat quand t'es psy. Même que c'est complètement raté, même que il en sort seul, dans le meilleur des cas, que t'as écouté quelqu'un qui s'est senti soulagé de pouvoir parler à quelqu'un, comme si t'avais parlé à n'importe qui aurait été simplement bienveillant, tu vois. Ben ouais, ça c'est le mieux que tu peux avoir. Mais tu n'as pas de si jamais tes patients se suicident les uns après les autres, on peut pas porter plainte contre toi pour autant. Et d'un point de vue scientifique, une démarche scientifique, normalement, c'est reproductible et c'est vérifiable par une instance neutre. Ce n'est absolument pas le cas, ni pour cette méthode psy, ni pour aucune autre, en réalité. Voilà.
Bon, bah alors, dernier extrait. Alors, vraiment, là, si vous n'êtes pas convaincu de ce que c'est qu'un individu normal, il n'y a plus rien pour vous. Hein. L'individu normal n'éprouve pas le besoin de faire de la vie ce qu'elle n'est pas. Il n'a pas besoin de grandes quêtes philosophiques. Il sait qu'il est vivant. Un point, c'est tout. Je pourrais consacrer toute la fin du présent ouvrage à décrire le comportement normal. Ce qui est normal, c'est tout simplement ce que font habituellement les gens normaux. Ce n'est pas passer sa vie à creuser des gouffres insondables pour s'efforcer ensuite d'en sortir. Donc voilà. Donc, être normal, c'est être normal.
Oui, voilà. Bah, c'est faire comme ils font les gens normaux. Voilà. Ah bah, écoute, moi je trouve ça puissant, excuse-moi, mais je comprends pas tes ricanements. Il dit pas que des bêtises, hein, c'est la preuve.
Ouais, oui. Bon. Ah, non, c'est...
Donc voilà.
Eh bien voilà, on en saura plus sur Arthur Janov maintenant.
Et voilà. Et je sais pas, je pense la semaine prochaine, peut-être on pourra revenir justement sur le thème. Malgré tout, il y a quand même pas mal de choses à dire sur le thème de politique et psychanalyse. Comme je te disais, je pars pas gagnante, mais sur cette idée que qu'il puisse y avoir un rapport, même un rapport, pas plus qu'entre pétanque et entre pétanque et psychanalyse, ou tu vois. Mais même si la même personne peut à la fois faire une psychanalyse et jouer à la pétanque, j'ai toujours pas vu. Je ne demanderai qu'à être convaincue, mais non, c'est pas vrai. Je ne demanderai pas qu'à être convaincue. J'ai quand même des préjugés, on va pas dire. Mais en même temps, le fait est que je suis pas aidée par les théories de ceux qui défendent la thérapie institutionnelle. Et je précise parce que c'est quelque chose qui me consterne toujours. Je trouve que le point de vue de l'entonnoir est pas facile à partager. Parce qu'on se retrouve toujours avec des gens qui veulent seulement aménager tout ce qui peut être psychiatrie institutionnelle. Et que le point de vue radical sur la question, c'est même pas qu'il est contesté, c'est qu'il est juste évacué. Voilà.
Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et on vous dit à la semaine prochaine. Sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Si je scie les câbles du mental, je m'insinue dans les caves de mes traumas.
Dans les galeries du trop, mais on est descendu trop bas. Trop près des gros drames atrophiés par les faux pas.
Dans les fosses noires se délitent les trophées du social. Enfant noyé par des faussaires de façade idéale.
Mascarade facile pour paraître normal. Formel, conserver sa folie dans le fort mort. Interdit d'être fragile, d'être celui qui s'en sort mal. Et quand la rage martèle, l'endormir dans du chloroforme.
Se dorer la clôture pour s'arriver au conforme, telle itérance du barbelé sur les doutes. Des diagnostics de barbares pour bien faire baler les fous. La santé des pharmaceutiques fabrique la maladie partout.
Parodie le soin à coups de camisole du dégoût. Tu sors de la merde comme un parasol dans les égouts.
La glaire des savants asservines éclaire puis des autopsies aseptisées. Des inertes inepties médicrades.
Des crises d'épilepsie qui t'envoient dans un autopsie. Schizophrène psychotique t'inquiète, on te neurodégrade.
Médecin, il est fou.
Quand on est enfermé, un jeune cadre comme ça dans
voir tous les jours du blanc, pas voir un seul pet de soleil.
Pour les médecins,
à la fin, il est un fou.
Comportement normé, pour être normal il te faut un cerveau bien bordé. Plein de rationnel dans une tête bien formée. Si t'es trop bordé ou borné, on te préfère enfermer. Diagnostiqué malade, pour te soigner on veut t'interner. Faire de ta folie un monstre morné. T'injecter des psychotropes et te passer la corde. Au coup mort vivant tu dors debout, étranger dans ton propre corps. Fou allié, donc les psy décident de ton sort. Pourquoi tu crois qu'autant de gens sont sous antidépresseurs? Pour traverser ton marasme il y a l'industrie des passeurs. Des producteurs de pastilles, de salades dans un poster, l'empire pharmaceutique dont les médecins se font les passeurs. Prescrivant des postiches pour effacer des tâches anxiolytiques et pastilles, ça fait pas bon ménage. Ça rend ta folie moche et de la vie ça te détache. Viens on allume la torche pour cramer l'industrie psychotrage. Mon potentiel de psychopathe normal, ça pue la crise aux portes de l'inconscient. La raison n'est que le videur qui supporte l'odeur de la ruelle. Où j'ai la mémoire laissée pour morte. Où trône les trop pleins de traumas qui gangrènent dès qu'on les apporte.
Permis de se guérir en lâchant prise nos forces vives. Accusés à tort par les entraves systémiques.
Prendre le droit de l'entorse ivre, s'autorisant la dérive. Rouger le morchu, le faux accord, échapper au contrôle systématique.
Tirer le faux du vrai, donner des formes aux monstres. Faire jaillir des entrailles, tout ce que la peur embryonne. Extirper des entailles, les charges d'infection. Exhumer les souvenirs, figer, rugir avec les lions. Déchirer scrupuleusement chaque axiome. Se rouler nu dans la vase, oser la transe et les grimaces. Vasir de grâce, la saveur rance. Des exilés de la réussite se croquent dans des pommes. Immolent dans l'acide, les idoles placides. Plus on se fuit, plus on se fige, plus on s'affole en silence. Rompre avec son corps, c'est s'enfoncer dans la déchéance. Suis le DSM des psy, prends soin d'expliquer le vide qu'inflige les bugs, court-circuit dans les neurones. Comportements normaux, débordements dangereux, débordements mentaux. Effacement de mémoire, fragments d'histoire fragilisés. Folie saine d'un environnement alité. Des nuances à ce pamphlet, le danger s'est identifié. Au rôle sachant patient, tenir pour acquis d'incomplète science. La médecine industrielle sauve des vies et un condamne. Fragmentation occidentale engendre tellement de mauvaises.
Le savoir médical est
carcéral quand il condamne au lieu de permettre. C'est une science trop sûre d'elle-même. Des fois elle sert, souvent elle raye. Nos pouvoirs de guérison, ce que les sorcières incarnèrent.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Mais les autres t'y font.